Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, est avec nous. Thierry, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bienvenue à Kinshasa.
Merci. Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdine Si à Dakar. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et donc pour le moment, on tente vainement de joindre Élisée Nkwatine depuis Boïkon au Bénin. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. C'est parti pour la 12e édition des Jeux africains Maroc 2019. La cérémonie d'ouverture a eu lieu aujourd'hui, même si quelques compétitions ont débuté le week-end. Alors Amine, le Maroc ne prenait pas part aux Jeux africains parce que hors de l'Union africaine depuis un fort longtemps. Le royaume chérifien retrouve maintenant ces Jeux-là après sa réintégration dans l'Union en 2017.
Il faut aussi rappeler que les Jeux africains ne dépendent plus de l'Union africaine. Ils dépendent de l'ACNOA, l'Association des comités nationaux africains. Et déjà, le Maroc avait organisé en 2011 les Jeux africains de la jeunesse. Donc, c'est une deuxième expérience dans le cadre du panafricanisme. Le Maroc récupère le flambeau de la Guinée équatoriale qui devait initialement organiser cette 12e édition. Mais pour des raisons économiques et logistiques, elle n'a pas pu répondre aux engagements de l'ACNOA. Et donc, le royaume chérifien s'est porté candidat. Il a récupéré l'organisation à la fin de l'année 2018. Il a signé au mois de décembre dernier le cahier de charge de l'organisation. Et aujourd'hui, elle se déroule sur plusieurs sites, en particulier dans la capitale administrative Rabat, mais également dans d'autres villes comme Salé, comme Ben Slimane, comme Casablanca, comme Mohamedia, comme El Jadida. Et ce sont 6000 sportifs africains représentant 54 pays qui sont attendus dans différentes disciplines. Certaines d'entre elles sont qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Autant dire que c'est une messe de la jeunesse africaine. C'est sous le signe du panafricanisme, de l'amitié, de la fraternité que se déroule cette édition. Nous verrons dans quelle mesure le royaume du Maroc va réussir l'organisation, parce que c'est un double pari, mais également le pari de voir l'excellence africaine sur les terrains de différentes disciplines. Il y a eu déjà quelques compétitions qui se sont achevées, en particulier le judo, qui s'est déroulé de manière condensée pendant 48 heures. Et au classement des médailles, c'est l'Égypte qui est en tête avec 15 breloques devant le Maroc, qui en totalise 11, dont 2 médailles d'or, Yacouba.
Merci bien, Amine. Alors, vous le disiez, 6 000 sportifs venus de tout le continent sont attendus à ces Jeux-là. Et vous le disiez également, les Jeux ont véritablement commencé depuis le week-end, même si la cérémonie d'ouverture a eu lieu aujourd'hui. On va rappeler quelques résultats. Déjà vendredi, on a eu droit à la première journée des matchs de poule en football. Et chez les femmes, le Maroc, au pays hôte, a réussi son entrée en venant à bout de l'Algérie, battue 3-2. Au niveau des hommes, dans le groupe A, le Nigeria et le Burkina Faso ont partagé les points 1-1, tandis que le match entre le pays autant le Maroc donc et l'Afrique du Sud a été reporté, disons. Mais jusque-là, bien sûr, Amine va le confirmer d'ici là ou pas. Je crois que le Maroc a été déclaré vainqueur suite à un forfait sud-africain. Et dans la poule B, le Ghana profite du nul blanc entre le Sénégal, tenant du titre, et le Mali pour prendre la première place suite à sa victoire de 1 devant le Burundi. Alors Amine, je me retourne vers vous. Concernant ce match Maroc-Afrique du Sud, qu'en est-il?
La Confédération africaine de football a déclaré le Maroc gagnant. Il faut rappeler que la délégation sud-africaine est arrivée avec beaucoup de retard. Les joueurs n'étaient pas du tout accrédités. Ils sont arrivés au centre sportif de l'Aïsfar où devait se dérouler cette confrontation quelques minutes avant le coup d'envoi, en faisant remarquer qu'ils étaient fatigués, qu'ils n'étaient pas prêts à prendre part à cette confrontation. Il y a eu donc un report de la part du comité d'organisation, une réunion, et puis la Confédération africaine de football a tranché. Il faut juste rappeler que pour le tournoi de football, que ce soit masculin ou féminin, outre le Maroc pays organisateur, ce sont les sélections africaines U20 qui sont qualifiées. Et pour simplifier la tâche, la Confédération africaine de football a décidé que les équipes qui étaient qualifiées pour la dernière édition de la CAN de cette catégorie allaient être conviées à disputer ce tournoi. Initialement, c'était les U23 qui étaient prévus, mais pour des raisons de calendrier, puisqu'on rappelle que dans quelques semaines, plus exactement lors de la première semaine de septembre, aura lieu le dernier tour qualificatif pour la CAN U23. On a préféré sursoir à cette décision et lancer dans le bain les joueurs de moins de 20 ans.
Merci Amine pour toutes ces précisions. Alors Jules, Amine le disait également, la particularité de cette 12e édition, c'est que les différentes performances vont être prises en compte dans les qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. C'est quand même une avancée notable.
Oui, c'est une avancée notable qui va aussi et permettre de prendre au sérieux ces Jeux, un peu plus au sérieux ces Jeux. Parce que les premières éditions étaient très disputées et par la suite, on s'est mis à aligner les seconds couteaux et il y avait moins d'engouement. Donc, on salue cette décision qui permet à l'Afrique de faire des jeux acceptables pour un continent qui est un des grands viviers du sport mondial.
La balle au panier à présent. Le Nigeria conserve son titre de champion de l'Afrobasket face au Sénégal. Les Lions se sont inclinés 55-60. On va écouter le coach du Sénégal, Cher Sa.
Désolé pour tout le soutien du peuple sénégalais. On voulait vraiment le faire, mais je pense qu'on a eu des limites au niveau des rebonds. 26 pertes de balles, c'est beaucoup. Le Nigeria mérite largement de gagner ce tournoi. On les a donné 13 rebonds offensifs gratuitement. Et dans le money time, on a perdu des ballons. On n'a pas su provoquer des fautes. C'est dommage. Et nous tenons à vraiment remercier tous les Sénégalais qui nous ont soutenus jusqu'au bout, qui ont cru à ça. C'est un moment où c'était très difficile, où on revenait, on était à égalité, on pouvait le faire. Mais on manquait de lucidité, de sérénité, et ça, on l'a payé cash.
Cher Saru Micro d'Amdine, si, alors Amdine, en 2017, le Sénégal avait perdu face au même Nigeria en finale. La revanche n'a finalement pas eu lieu, malgré quand même le soutien du public de Dakar et une super fin de match.
Tout à fait, Yacouba. Le Sénégal qui est tombé sur sa bête noire, puisque le Nigeria est devenu, depuis 2017, la bête noire du Sénégal, puisque en 2017, vous l'avez dit tantôt, le Nigeria avait battu le Sénégal en finale. Mais le Nigeria a également battu le Sénégal en match de poule. Hier, au Palais des Sports Dakar Arena, le Nigeria s'est imposé à nouveau. Il faut dire que c'est la meilleure équipe du tournoi qui s'est imposée. Le Sénégal s'est battu. Comme on a l'habitude de le dire, les Lions sont tombés les armes à la main, mais elles sont tombées sur une équipe plus forte que le Sénégal. Il faut dire que le Nigeria est tout simplement la meilleure équipe. Elle a survolé cette compétition. Meilleure attaque avec 370 points marqués. Meilleure défense avec 224 points marqués encaissés seulement. Et Yacouba, il faut le signaler, le Nigeria est invincible depuis 2015. La dernière défaite du Nigeria sur le continent remonte en 2015 lors de la demi-finale face au Cameroun. C'était à Yaoundé. Le Nigeria s'était incliné. Depuis lors, le Nigeria règne sans partage sur le continent. Le Nigeria, c'est une équipe composée de 12 joueuses interchangeables, 5 joueuses qui jouent au niveau de la WNBA, des joueuses talentueuses avec un entraîneur expérimenté qui a eu déjà à coacher des joueurs comme LeBron James et Kevin Durant à l'universitaire. C'est un entraîneur américain. Cette équipe est composée également des joueurs, c'est vrai, c'est des Nigérians, mais elles sont nées et grandies aux États-Unis. Donc c'est une machine redoutable qui a vraiment séduit tout le monde et battu cette équipe nationale du Sénégal. Et pour compléter un peu ce que vous aviez dit, le Nigeria qui sort premier, le Sénégal deuxième, mais il y a également le Mali qui a réalisé un bon tournoi et le Mozambique d'ailleurs, ces quatre équipes plus l'Angola et la RDC sont qualifiées pour les préliminaires des Jeux Olympiques. Yacouba.
Justement, Amdine, vous le disiez si bien, le Mali a fini troisième suite à son succès 66-54 face au Mozambique. L'Angola victorieuse de la RDC 68-48 prend la 5e place. Alors Thierry, les Congolaises disputeront au moins le tournoi de préqualification pour les Jeux Olympiques de 2020, tout comme les 5 premières équipes.
C'est la seule satisfaction à retenir pour les Léopards d'âme de la République démocratique du Congo qui ont remporté à 3 reprises, il ne faut pas l'oublier, c'est de l'histoire, mais bon, il faut quand même le rappeler, ça fait du bien après le sacre des Léopards à messieurs à la FOCAN. Et ils ont eu à remporter à 3 reprises cette compétition par le passé, mais depuis, le basketball féminin en République démocratique du Congo est un peu en difficulté, en souffrance. Et là, les filles se sont battues elles étaient déjà dans un groupe extrêmement relevé. Mais bon, le fait de pouvoir arracher l'une des 6 places qualificatives pour ce tournoi qualificatif est la seule note positive de leur participation à ce championnat d'Afrique au Sénégal. C'est donc une grande satisfaction pour la Fédération de basketball du Congo, qui a promis d'ailleurs aujourd'hui de mettre le boucher double pour que les filles essayent de faire mieux que lors de leur participation là-bas à Dakar, et essayer d'arracher, pourquoi pas, un ticket pour les Jeux Olympiques, même si ce sera extrêmement compliqué, car la hiérarchie sur le continent est connue et pour le moment, elle est bien respectée. On l'a rappelé avec le Sénégal, qui n'a pas pu prendre sa revanche face au Nigeria, malgré le très bon match des Sénégalaises. Donc voilà, ce sera difficile pour elle d'aller bousculer la hiérarchie africaine en la matière. Mais voilà, c'est quand même satisfaisant de terminer 6e.
Ce sacre des 10 Tigres du Nigeria, c'est purement et simplement, disons, une confirmation, Jules.
Oui, c'est tout simplement une confirmation, car le basketball nigérian est dopé depuis quelque temps par la NBA. C'est un pays anglophone très peuplé et qui est ouvert sur l'immigration depuis longtemps. Et son pôle principal d'arrivée, sont les États-Unis et en quelque sorte l'Olympe du basketball. Et donc, ils ont finalement, le Nigeria a pris la première place au niveau du basket, notamment au détriment du Sénégal qui avait plutôt une tradition française au départ. Donc, ce n'est pas étonnant et nous en sommes encore dans cette dynamique et d'autres pays africains s'engouffrent dans cette porte.
Merci bien. Jules Valentin Ngoué, vous suivez Sporama, suivez Afrique. L'émission revient tout de suite. En football, vous l'avez suivi, en fin de semaine dernière, le franco-bosniaque Vahid Halilhodžić a été nommé sélectionneur du Maroc pour une durée de 4 ans. Il succède ainsi au français Hervé Renard, avec qui la Fédération royale marocaine de football s'est séparée à l'amiable après l'échec à la CAN. Alors, Amine, entre-temps, c'est Laurent Blanc qui a été annoncé. Il a ensuite décliné l'offre. Après, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y avait une shortlist, d'après mes sources à la Fédération marocaine de football, qui comportait 4 noms depuis un certain temps. On parlait de Vahid Halilhodžić, il a toujours été en pole position, malgré le fait qu'il était déjà sous contrat avec Nantes. Il y avait Laurent Blanc, mais également 2 autres noms. Carlos Queiroz, avant, qui ne s'engage avec la Colombie, et puis Ganotror, qui semblait être l'outsider de service. On a amplifié la liste à d'autres noms, comme Luis Fernandez. Mais visiblement, les responsables de la Fédération marocaine de football avaient une option numéro 1, elle s'appelait Vahid Halilhodžić. Et dans la mesure où ce dernier a pu se libérer de son contrat avec le FC Nantes, il était disponible, il fallait juste négocier le contrat avec des engagements sur le plan financier et sur le plan sportif. Laurent Blanc est venu, il a rendu visite à la Fédération marocaine de football, il a déposé son CV. Il y a eu quelques divergences de point de vue, notamment sur le plan financier. Puis, sachez que Laurent Blanc s'est montré suffisamment gourmand pour dissuader les dirigeants marocains de compter sur lui. Aujourd'hui, c'est Vahid Halilhodžić qui part pour une aventure de 4 ans jusqu'en 2023. Pourquoi 2023? Parce que tout simplement, avec le changement de calendrier de la Coupe du Monde de 2022, celle-ci aura lieu vers le mois de décembre. Et entre la Coupe du Monde et la CAN qui suit, il n'y aura que 6 mois pour pouvoir préparer la compétition. Du coup, on a préféré miser sur la sécurité du côté marocain. Ce sera un engagement donc sur 4 ans avec une mensualité assez raisonnable par rapport aux chiffres qui ont filtré et qui ont certainement dû hérisser le poil de certains citoyens marocains. Donc on part du principe que ce sera 80 000 euros par mois, quasiment un tiers de mois par rapport à ce que touchait Hervé Renard. Et surtout, Vahid Halilhodžić a dû faire des concessions par rapport aux émoluments qu'il touchait du côté de l'Hexagone. On rappellera aussi que par rapport aux objectifs sportifs, le Maroc doit se qualifier pour la CAN 2021, surtout être dans le dernier carré de la compétition. Il doit continuer à se qualifier pour la Coupe du Monde. Du coup, l'objectif de Qatar 2022 a été déterminé par les dirigeants marocains. Et puis, il faut arriver en finale de la CAN 2023 On suppose aussi que Vaïdanovic a été attiré par le challenge sportif, celui de se qualifier pour la quatrième fois de son parcours professionnel pour une Coupe du Monde avec une quatrième nation différente. Voilà, ce sera un mariage de raison. Les intentions sont là. Il va falloir maintenant transformer cet essai dès la date FIFA. Le Maroc aura deux rencontres amicales à Marrakech, le 6 septembre contre le Burkina Faso et le 10 face au Niger. Vaïdanovic a déjà donné le préliste initial de 46 joueurs, c'est une liste assez élargie, qu'il devra raccourcir dans les prochains jours afin de voir dans quelle mesure il va apporter du 109 à cette équipe du Maroc ou si on fera du 9 avec du crédit.
On attendra de voir donc tout cela. Alors Thierry, en République démocratique du Congo, après le départ de Florent Ibenge comme sélectionneur des Léopards, la FECOFA a fait confiance au directeur technique national Christian Tsengui Biembe pour conduire la sélection nationale pendant une période de 12 mois, dit-on. Une période qui semble être une période d'essai.
Période de 6 mois, pas de 12 mois.
Ah, ok, 6 mois.
6 mois dans un premier temps. Oui, avec un staff réaménagé. Hein, certains membres du staff, notamment Pamphile Niayo, l'actuel entraîneur du Tout-Puissant Mazembe Zéber, ont été éjectés. Christian Tsengui Biembe, directeur technique national, à qui la fédération a tout de suite recouru, parce que c'était lui un tout petit peu qui était le technicien le plus haut gradé, c'est le technicien le plus qualifié. Hein, pour le moment, en termes de diplôme, même si son expérience en club avec l'association sportive et club il y a quelques années a été un peu mitigée. Jusque-là, il s'occupait de la jeunesse au niveau d'Anderlecht en première en Jupiler Pro League belge. Et il est là, il va s'investir, se servir du travail qu'a fait pendant 5 ans Florent Ibenge et essayer d'amener l'équipe le plus loin possible. C'est au bout de 6 mois que l'on pourrait, au niveau du staff technique de la fédération, au niveau de la Fédération congolaise de football association, évaluer un peu s'il faut poursuivre avec lui ou prendre un autre technicien, parce que la Fédération congolaise de football association a signalé par ailleurs qu'il y avait énormément de demandes, de sollicitations de certains techniciens, mais elle a préféré miser pour le moment sur la direction technique, un tout petit peu la continuité de Florent Ibenge. Comme je l'ai dit tantôt, parce qu'il a gardé quelques éléments de son staff, notamment Mouni Zahira, mais il y a associé quelques éléments également. Trésor Loualoa, ancien international congolais, qui était déjà là, qui va s'occuper des attaquants, ainsi que Christopher Walembo, lui également ancien international, médaillé de bronze avec les Léopards en 2015 en Guinée-Équatoriale. Donc voilà un peu, on est un peu dans une phase transitoire avant peut-être de lever une option sur les techniciens qui devraient, dans 6 mois, prendre les commandes des Léopards de la RDC sur le moyen ou le long terme.
Alors, Amdine, Thierry le disait tout à l'heure, Christian Tsengui Biembe est nommé pour 6 mois et la fédération appelle ça une période d'essai. Est-ce qu'on ne met pas trop de pression sur un entraîneur quand on le nomme pour 6 mois et puis on lui dit, écoute, on peut te nommer définitivement au cas où les résultats sont probables, dans la mesure où quand même ils sortent d'une canne, pas trop reluisante.
Mais Yacouba, il y a toujours la pression chez les entraîneurs. Moi, je pense que ce que les responsables congolais ont fait, c'est une bonne chose. Le fait de prendre le directeur technique, qui est déjà un technicien aguerri, lui confier les rênes de cette équipe pour 6 mois, c'est une période de test. C'est à lui de saisir sa chance, de prendre la balle au rebond et de faire de bons résultats, comme au Mali, on l'a fait. Et le directeur technique est en train de faire de bons résultats. Moi, je pense que c'est une décision très sage, une décision à saluer. Maintenant, c'est au directeur technique, qui est le supérieur hiérarchique de l'ancien entraîneur Ibenge. Hein. Donc, c'est un technicien averti, aguerri. C'est à lui de prouver aux responsables de la fédération qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs, parce que ce qu'ils ont besoin, ils l'ont. C'est-à-dire lui. Donc, il n'a qu'à saisir sa chance et faire de bons résultats et il sera confirmé à ce poste.
la RDC, qui a fait donc confiance une fois de plus à un entraîneur local, même si c'est provisoirement. L'Égypte veut en faire autant désormais. Le Burkina Faso s'est lancé dans la même dynamique avec la nomination de Kamou Malo comme sélectionneur des étalons. Et j'en passe. Alors, Jules, est-ce l'effet Djamel Belmadi de l'Algérie et Aliou Cissé du Sénégal, finalistes tous deux, hein, de la dernière CAN, qui a favorisé quand même cela? Et donc, j'avais dit, l'émergence des entraîneurs sortis du gru.
Effectivement, ça, le lien est direct. On a vu que ces entraîneurs-là se sont imposés dans le temps, mais surtout, il ne faut pas oublier non plus leur précurseur, Kéchi, par exemple, à qui on avait fait confiance, qui a fait de bon travail, Ibengué lui-même, et un peu avant eux.